Bonsoir et bienvenue sur les ondes du Studio Zef.
Nous sommes sur le 91.1 et le 91.7.
Nous sommes au hangar du Château d'Eau, c'est la soirée carrière.
Et c'est parti, c'est le direct de Studio Zef, les micros ouverts à la médiathèque Maurice Genevoix.
Le grand direct de Studio Zef.
Des plateaux hors les murs.
Pour vous faire entendre et vivre
les événements du Loir-et-Cher.
C'est quoi ta radio préférée ?
Bonjour à toutes Zefeux et Zefeurs.
A bientôt à la radio.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct depuis le Centre culturel des Rottes à Vendôme, la démocratie locale au cœur du projet de notre radio associative, évidemment. Nous sommes en période électorale, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, est née l'idée avec le territoire vendômois et donc le projet Exploradio de Vendôme de procéder à des petits échanges entre jeunes issus du territoire de Vendôme et les candidats à la mairie de Vendôme. Bonjour, Jacques. J'accueille donc trois des jeunes qui vont faire partie de cette émission. J'accueille, hop, j'ai noté Axel, Robinson et Antonin. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et on accueille notre premier candidat. Ils seront quatre à se succéder, deux aujourd'hui et deux demain à la même heure. Rendez-vous donc aujourd'hui et demain de 15h à 16h sur l'antenne de Studio Zef 91.1 à Blois et 91.7. À Vendôme. On accueille donc pour commencer ces deux émissions spéciales le maire sortant. Laurent Briard, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Studio Zef. Donc, comme on vous l'avait expliqué en amont de ces émissions, ce sont les jeunes qui vont interagir. Je serai ici, moi, en modération pour compléter et essayer d'apporter. Mais on a bien travaillé depuis hier avec tout ce groupe de jeunes. Ils sont une petite dizaine à contribuer donc, dans l'émission d'aujourd'hui ou de demain. Donc, avec ces petits échanges avec les quatre candidats. Eh bien, on va commencer tout de suite, puisque une heure ça file vite, on va vite s'en rendre compte. Donc on commence avec les questions qu'ont préparé les jeunes. C'est à vous.
Alors, première question, pour vous, à quoi sert un maire ?
Alors, un maire, il sert à beaucoup de choses. D'abord, un maire, il y a une mission qu'on ne connaît pas toujours. Parfois, il est le représentant de l'État. Par exemple, lorsqu'il y a ce qui touche l'État civil, lorsqu'il y a un mariage, vous savez qu'on l'enregistre à la mairie. Oui. C'est le maire qui signe les documents officiels. L'acte de naissance dans la commune où vous êtes né. Malheureusement aussi, les actes de décès. L'organisation des élections, comme celle que nous allons vivre les 15 et 22 mars. Et bien à ce moment-là, le maire se substitue à l'État. Il est donc officier de l'État civil et c'est lui qui va organiser, gérer, coordonner à la place de l'État, par exemple les élections, par exemple l'État civil. Il a plein d'autres rôles, bien évidemment. Il est aussi garant de différentes choses. Le maire, de par son projet, va aussi donner une vision pour la commune qui touche plusieurs domaines. Hein. Ça va de l'entretien, voire de l'avenir de ce bâtiment où nous sommes, le centre culturel, de la façon dont il fonctionne, y compris sur les ressources humaines, jusqu'à gérer les routes, bien évidemment, gérer les écoles primaires. Jusqu'au CM2, c'est la mairie qui en charge tous les locaux, la cour, etc., tout ce qui s'y déroule, par exemple. Alors, il y a aussi maintenant des compétences qui sont un petit peu réalisées avec la communauté d'agglomération. Par exemple, gérer l'eau et l'assainissement. Quand on tourne le petit bouton de son robinet, l'eau, elle jaillit toute seule, mais vous dites bien que c'est un peu plus compliqué. Eh bien, c'est aussi le rôle du maire et de l'agglomération, bien évidemment, de gérer l'eau, l'assainissement, plein d'autres éléments. Alors, je ne vais pas occuper l'heure, mais voilà. Le rôle d'un maire est extrêmement important, mais extrêmement, je dirais, large.
On reviendra sur cette notion de maire et de président de l'agglomération, puisque, alors je ne sais pas si c'est une spécificité à l'échelle nationale, mais effectivement, le maire de Vendôme occupe une fonction importante au sein de l'agglomération. C'est une question qu'on a prévu de poser un peu plus tard. Mais d'abord, on continue avec les questions les autres questions des jeunes.
En fait, pourquoi voulez-vous rester maire
de Vendôme? Pourquoi voulez-vous rester maire? Pourquoi briguer un nouveau mandat?
C'est une excellente question. Alors, c'est pas une question que j'ai prise à la légère. Ta question, Robinson, elle est très pertinente. Je me suis posé la question et je l'ai surtout posée à mon entourage, puisque j'ai choisi. Chaque maire fonctionne différemment et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai choisi de m'impliquer le jour où je me suis présenté et que les Vendômois m'ont élu maire. J'ai choisi de travailler du lundi matin au dimanche soir. C'est mon choix. Voilà, je vais à tous les événements possibles, parce que ça me permet de garder un contact très proche avec la population, avec tous ceux qui font vivre Vendôme. Et du coup, avant de dire est-ce que je retourne pour un second mandat, j'en ai parlé avec mes proches, ma famille, parce que voilà, je les vois pour dire plus, mais je ne m'en plains pas. C'était un contrat moral qu'on avait ensemble. Et j'ai dit, ben voilà, j'y retourne parce que j'ai une équipe derrière moi qui veut y retourner intégralement, qui a envie. Donc ça aussi, c'est motivant parce que la population nous a fait aussi des signes en disant vous avez travaillé, il y a encore des choses à faire et il y en aura toujours et tant mieux. C'est aussi ce qui est agréable. Et je me suis dit, ben voilà, on a beaucoup travaillé, on a fait avancer des choses. Eh bien, est-ce qu'on a envie de continuer? Oui. Mais je me suis posé la question parce que j'ai un autre métier dans la vie. Je ne sais pas si c'est une question. Je suis orthophoniste. J'ai choisi de travailler à l'hôpital public par choix. Et j'avoue que mon métier me manque aussi. Et je me suis aussi posé la question si je ne souhaitais pas retourner à mon métier d'origine. Voilà. Donc, eh bien, je repars. Je me représente pour un nouveau mandat. Je ne ferai pas 50 mandats, comme je dis toujours. Et je l'ai dit, je le redis, parce que c'est très intense si on le fait à fond.
C'est une question d'actualité. Cette élection municipale est aussi à l'échelle nationale beaucoup commentée du point de vue des démissions ou du non-renouvellement de mandat. Est-ce que maire est un métier c'est pas vraiment un métier, mais est-ce que c'est une fonction difficile aujourd'hui?
C'est devenu difficile aujourd'hui. Moi, je suis élu, pas comme maire, mais élu depuis 2001. Ça commence à faire beaucoup.
Il n'était pas né, ces jeunes autour de vous.
C'est devenu très difficile en quelques années. Et quand je parle avec des collègues, quelle que soit la dimension de la commune,
quelques années... leur bord politique.
Et leur bord, leur sensibilité. Alors là, vraiment, c'est unanime, toute sensibilité.
Tout le monde partage le constat.
Ça a été un mandat extrêmement dur. On a démarré avec la crise sanitaire, qui a été très éprouvante. Moi, j'ai toujours, comme tous les maires, le téléphone jour et nuit. Mais la crise sanitaire, c'était dur parce que je me suis retrouvé à la mairie. On était trois dans la mairie, où d'habitude, on est à 600-700. Donc, c'était très fatigant. On a eu derrière toutes les crises, vous le savez bien, des matériaux, tout est devenu très cher, l'électricité, tout. Et a fallu malgré tout tenir nos budgets, continuer à investir, à bien fonctionner. Effectivement, aujourd'hui, il y a un petit peu parfois moins de filtres. Les réseaux sociaux permettent parfois de dire des choses en se cachant derrière un pseudo, derrière un écran. Et quelquefois, il y a des phrases qui font mal. Quand vous vous couchez, il est 1h du matin, que vous êtes allé régler un problème parce qu'il y avait un chien errant, parce qu'il y avait un problème dans tel quartier, que vous rentrez, que vous êtes fatigué, vous savez que le lendemain, vous devez reprendre et c'est normal. Et puis que vous lisez, quelqu'un vous insulte parce qu'il trouve que, je ne sais pas... hier, la mairie était fermée à 17h, qu'elle aurait dû fermer à 19h. Bah, y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais le lendemain, on a tellement de sourires, tellement on se sent utile. Le mandat de maire, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on se sent utile parce que c'est concret. On peut mesurer tout de suite les effets. Quand on aide quelqu'un, on le sait tout de suite.
On va parler des projets de la ville. Donc, quels sont vos projets novateurs pour la ville pour après les élections?
Alors, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas encore dévoilé mon programme, figurez-vous. On espérait éventuellement pouvoir avoir quelques éléments. Il y a une chose qui est sûre, on aura un programme, ça c'est important, qui est réalisable financièrement. Les élections, c'est normal, parfois on vend des choses dont on n'est pas sûr de pouvoir les accompagner financièrement. La situation financière de la ville est très saine. Mais il faut la garder saine, il faut garder des capacités pour faire, pour demain, pour les habitants de demain. Et ce qui compte dans les projets, c'est surtout de ne pas faire n'importe quoi et de trop endetter la ville. Là, ce n'est pas le cas. On aura des projets qui toucheront l'intégralité des compétences. Moi, mon but, ce n'est pas de dire qu'il y a un projet qui, à lui tout seul, prendrait 12 ou 13 millions d'euros. Et puis les autres, on fera bon an, mal an ce qu'on peut. Là, le but, c'est quel que soit la jeunesse, le sport, le patrimoine... continuer à travailler sur l'économie, etc. On continuera d'agir. Le projet, il se veut global. C'est pas un projet avec un point phare à 12 millions d'euros et puis les miettes pour le reste.
En 2014, vous étiez sur la même liste que Pascal Brindeau. Pourquoi faites-vous deux listes différentes aujourd'hui?
C'est une excellente question.
C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas pour habitude de commander les autres candidats. J'ai envie de dire, vous lui demanderez, peut-être qu'il répondra ou pas. En 2020, effectivement, j'étais tête de liste. En général, le symbole veut que la tête de liste soit celui qui prétend être maire demain, ce qui a été le cas. Mission que j'ai remplie, l'intégralité du mandat. Bon, aujourd'hui, M. Brindeau veut faire une autre liste. J'ai envie de dire, c'est la démocratie. Je n'ai pas trop d'explications. Bon, peut-être qu'il en aura une. Moi, j'en ai pas. Mais après, c'est la démocratie. Et qu'il y ait plusieurs candidats dans une élection, c'est plutôt bien. Et je trouve dommage parfois dans certaines communes
qu'il n'y ait qu'un candidat.
qu'une seule liste. C'est un peu dommage, mais après, il faut vouloir s'engager. Voilà. Mais c'est plutôt mieux quand il y a plusieurs listes. Moi, plus il y a de listes, je trouve ça démocratique.
Et ça participe au débat démocratique qu'on organise ici. Tout à fait.
Tout à fait.
Super.
Si vous êtes réélu maire de Vendôme, serez-vous président de l'agglomération ou pas ?
Alors, je me présenterai pour présider l'agglomération, effectivement. Alors, ce n'est pas une spécificité vendômoise. Nationalement, quelques exceptions près, c'est en général le maire de la ville-centre. Pourquoi ? Alors, notamment, nous, on a une spécificité, du coup, en territoire vendômois. C'est que la ville de Vendôme, d'un point de vue démographique, est nettement supérieure aux autres communes. Puisqu'après Vendôme, on a la deuxième commune, c'est Montoire, à environ 4000 habitants. Donc de 17 000, on passe à 4 000, 4 500. Donc il y a une vraie différence, de nombre d'habitants. Et puis ça permet surtout d'avoir ce qui fonctionne plutôt bien, une administration territoriale unique. Ça veut dire qu'on mutualise les ressources humaines. Quelqu'un peut travailler pour l'agglomération, par exemple auprès de la jeunesse. Mais si ça peut aider dans la ville, il peut y avoir aussi du temps pour la ville. Ça permet d'être plus réactif également. Par exemple, on a, c'est aussi pour mutualiser, être plus réactif et limiter les dépenses, on n'a qu'un seul directeur général. Je n'ai pas un directeur général à l'agglomération, un directeur général à la ville. Non, pas du tout. On n'en a qu'un seul qui a une vision à 360. Ça permet d'être plus efficace, plus réactif, bien évidemment, et de faire des économies d'échelle parce que bien, on évite de doubler, de faire des doublons de postes.
Est-ce que vous avez compris ? On a dit qu'on arrêterait les candidats quand on ne comprenait pas.
Ah, il faut surtout.
Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi le maire de Vendôme serait éventuellement aussi le président de l'agglomération ? C'est clair pour vous ?
Oui.
Super.
Oui.
C'est le principal.
Le harcèlement. On en parle de plus en plus dans les établissements scolaires. Est-ce qu'un maire peut agir contre le harcèlement scolaire ?
Alors, un maire ne peut pas agir directement, mais nous, on agit par un biais que vous connaissez bien. C'est que, notamment par notre équipe du service jeunesse, ils interviennent, ils tiennent des permanences parce qu'on l'a souhaité et collectivement, hein, c'est pas. Ils interviennent dans l'ensemble des établissements scolaires, y compris les lycées, les collèges, qui ne relèvent pas de la mairie.
Qui ne sont pas de la fonction municipale. D'accord.
Les départements gèrent les collèges et les régions gèrent les lycées. Eh bien, on a fait des conventions et on va dans tous les établissements scolaires et ça permet notamment qu'ils travaillent avec les jeunes, notamment sur le harcèlement, parce que ça en fait partie. C'est aussi un travail, je pense notamment à la maison des lycéens, au lycée Ronsard, où ils ont mené un gros travail l'an dernier sur le harcèlement. Donc c'est à travers encore le travail des services, parce qu'on travaille avec tous les agents. Ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous, pour les habitants du territoire, et bien avec tous les agents, et notamment à travers le service jeunesse qui fait un gros travail, et le service Vivre Ensemble également, cohésion sociale. On utilise et grâce à ça, on peut rentrer dans les établissements scolaires. Il y a eu un souci, par exemple, à un collège. Eh bien, j'ai provoqué comme médiateur une réunion et du coup, il va y avoir une réunion avec les parents d'élèves, la direction. Le tout, c'est de travailler ensemble. Il faut faire en sorte d'être un plus, d'accompagner et d'apporter un plus pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui est une réalité.
Donc, à l'échelle municipale, vous avez des leviers, malgré tout, à mettre en place via les services.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre des leviers en place par le fait qu'on rentre effectivement dans les établissements scolaires par le biais de ces permanences qui servent à plein de rôles, quoi, un rôle inouï. Hein. Amener les jeunes à aller dans nos maisons de la jeunesse, répondre à leurs questions, proposer des activités. C'est un lieu important pour les jeunes.
Est-ce qu'il y a assez de transports en commun, selon vous, à Vendôme ?
Alors, on en vit toujours plus. Aujourd'hui, il y en a. Par exemple, sur le transport, ce qu'on appelle urbain, on a eu plus 21%, parce qu'on l'a modifié, on a plus 21% de voyages, là, sur l'année dernière. Ça fait beaucoup. Vous voyez, plus 20%, ça fait un nombre de voyages extrêmement important qu'on a mis en place parce qu'on l'a développé. Il faut encore le développer. On a aussi mis en place un transport à la demande. Un transport à la demande, ce n'est pas un taxi. C'est un transport qui est géré par la ville et qui peut vous prendre à la demande à un endroit, à un arrêt de bus. On n'a pas le droit de prendre les gens chez eux. Sinon, on serait en concurrence des taxis, c'est interdit. Mais par contre, on a le droit de vous prendre à un arrêt de bus, un rendez-vous qui est pris, vous emmener à un autre arrêt de bus, proche du rendez-vous que tu aurais, par exemple, et puis, bien sûr, te ramener si tu souhaites qu'on te ramène dans les mêmes conditions. On a aussi développé le transport à la demande. Et pour les majeurs, parce que ça ne dépend pas de nous, on a développé une plateforme de covoiturage où l'agglomération prend en charge l'intégralité des frais de covoiturage. Si vous êtes passager, c'est nous qui payons le chauffeur, tout simplement. Mais elle n'est pas ouverte aux mineurs, puisque, comme vous le savez, c'est assimilé à du je sais pas quoi, e-commerce ou autre. Et donc, les mineurs, en théorie, n'ont pas le droit d'adhérer à cette plateforme et d'en bénéficier. J'ai saisi les députés et sénateurs pour modifier ça, parce que demain, l'un d'entre vous peut très bien vouloir être apprenti en alternance. Et si l'apprenti, qu'il a 16 ans ou 17 ans, bah, il n'est pas majeur, il ne pourra pas bénéficier du covoiturage. Et c'est un peu dommage, parce que ça fonctionne très, très bien. En 2 ans, on est dans les records de France de la plateforme avec Caros, puisqu'on est à près de 66 000 covoiturages effectués en seulement 2 ans, en comptant le lancement. Donc le temps que ça se lance, c'est colossal, hein. C'est plus qu'une ville comme Auxerre, par exemple.
Je prolonge sur le transport avec une question qui déborde sur l'emploi, l'attractivité du territoire. La ligne TGV a fait beaucoup parler au printemps dernier. Est-ce que des questionnements, des réflexions ont été menées durant ces 6-8 derniers mois et le seront aussi dans votre éventuelle mandature suivante ?
Oui, 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 il y a beaucoup de travail de mener, parce que la SNCF, ça doit être un partenaire. Pour moi, la SNCF, c'est un service public. Je sais bien que ça ne l'est plus réellement parce que mise en concurrence. Moi, pour moi, la SNCF doit répondre à un service public. Et l'outil TGV est extrêmement important. On travaille aussi avec la région et bien au-delà. Par exemple, on a décidé, parce qu'on a travaillé, on est une des rares communautés et villes on s'est mis autour de la table dans le cadre du CERM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec
le CERM, c'est quoi ?
C'est un service qui concerne le train de la gare TER, le train qui est en centre-ville, hein, pas le TGV. Et d'ici 2040, on aura un aller-retour avec Tours toutes les heures, de 6h du matin à 23h. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous serez étudiant.
Dans quelques années.
Vous ne serez plus obligé d'aller louer un appartement parfois onéreux, parfois loué pour très peu de jours parce que vous serez en stage, parce que la fin de semaine, vous êtes chez vous. Eh bien, vous pourrez prendre le train, qui sera bien sûr un tarif de petit train régional. Et tout ça parce qu'on s'est mis autour de la table. Et déjà cette année, il y a déjà eu fin d'année 2 allers-retours supplémentaires. Donc on travaille aussi sur ce train-là. Il ne faut pas le négliger. C'est un vrai plus pour nos étudiants, pour aussi les gens qui viennent travailler de Tours ou ceux qui vont à Tours. Et puis sur la SNCF partie TGV, on y travaille encore parce que c'est un outil de service public. J'assume ce que je dis. Et donc on continue à travailler avec eux pour l'optimiser.
Les garçons, on continue.
On revient sur les jeunes. Est-ce que vous aviez des projets pour les jeunes pour votre mandature après 2026 ?
Alors oui, vous voyez en avoir. Alors, je suis désolé, je pense que c'est un exercice, mais en même temps intéressant pour vous. Mais comme je n'ai pas encore dévoilé le programme, sera dans quelques jours.
Faut jongler
une grosse semaine. Voilà. Ouais. Mais bien évidemment, les jeunes ne sont pas laissés de côté. D'abord parce qu'une commune, quelle que soit sa dimension, où qu'elle soit située, elle doit s'adresser à tout le monde. Ce que je veux dire, quand on est élu, et tous les candidats souhaitent être élus, c'est bien le but, eh bien, on n'est pas élu que pour les électeurs ou que pour un quartier. On est élu pour toute la commune, pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation, leur âge et leur nationalité. Ça, c'est important. On ne doit laisser personne de côté. Et puis, la jeunesse, c'est un investissement pour l'avenir. Enfin, vous êtes la vie du Vendômois de demain. Enfin, et puis, si l'un d'entre vous, pour des raisons à une future époque, va vivre ailleurs, eh bien, c'est pas grave. L'avenir de notre pays, et bien au-delà, c'est vous, c'est la jeunesse. Donc, on doit forcément penser à vous. C'est indispensable.
Pensez-vous qu'il y a assez de pistes cyclables à Vendôme ?
Alors, les pistes cyclables, on en a beaucoup fait. Sous le mandat qui vient de s'écouler, de mémoire, on est à 10 km de pistes cyclables et on a dû repeindre d'autres pistes puisque, vous savez, c'est plutôt une bonne chose qu'aujourd'hui, les peintures, les résines que l'on met au sol pour marquer, elles ont moins de produits dangereux qu'avant. Tant mieux.
Tant mieux.
Mieux pour tout le monde. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'elles durent rarement de plus 4 à 5 ans. Et du coup, on a fait 10 km supplémentaires. Réglé. C'est beaucoup, 10 km. Hein.
Oui.
Mais en plus, et ça, je ne les ai pas comptés dans les 10 km, on a dû en refaire beaucoup, beaucoup, qui s'effacent très régulièrement et qui ont un coût non négligeable, qui viennent se surajouter. Alors, il y en a déjà beaucoup. Effectivement, on veut les développer. Et surtout, on a fait quelque chose qui n'existait pas avant. On a fait un schéma directeur cyclable et un schéma intercommunal cyclable. Pourquoi ? Parce que demain, vous avez des copains qui habitent à Saint-Ouen, à Naveil, etc. Eh bien, le but, c'est quand vous êtes, par exemple, en vélo, quand vous allez voir votre copain, que ça ne s'arrête pas à la pancarte. Il y a plein de pistes cyclables à Vendôme qui s'arrêtent à la pancarte de Vendôme. Aujourd'hui, si vous allez à Saint-Ouen, que vous prenez la rue des Maillettes, là, pas très loin, Vous la continuez, elle est à quelques dizaines de mètres, et vous allez voir. Arrivé à la fin, où panneau ou Vendôme s'arrête, il n'y a plus de piste cyclable, c'est fini. Donc c'est un peu dommage, et avec tous les maires, on s'est entendus, et on a fait ce schéma, et donc on va lancer les premiers travaux, qui que ce soit. De toute façon, ça a été validé. Et les premiers travaux de pistes cyclables vont continuer, y compris en intercommunal. Et puis dans Vendôme, on va continuer. Alors, c'est parfois compliqué parce que dans Vendôme, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypercentre, qui est un quartier avec du patrimoine ancien. Et du coup, les rues sont parfois étroites, un peu tortillées. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais oui, il faut les développer. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. On partait de rien. Mais il faut encore les développer. C'est important.
Merci. On va parler des emplois. On voit qu'il y a des usines qui ferment comme Brandt. Que comptez-vous faire pour protéger les emplois, si vous pouvez ?
Alors l'emploi à Vendôme et en Vendômois va très bien. Quand Brandt a fermé, on a eu une réunion encore semaine dernière, lundi dernier je crois, et on a réussi à réunir, on a fait ça dans une salle à Naveil, on a réuni 38 entreprises et tous les salariés de Brandt étaient là. C'était avec le préfet, avec France Travail, etc. Eh bien sachez qu'il y avait environ 150 emplois qui étaient proposés aux 78 agents, enfin aux 80 agents environ de Brandt qui étaient présents. Aujourd'hui, Vendôme, on a l'un des plus bas taux de chômage de France, puisqu'il est à 6%. Il était, quand j'ai pris les commandes de la mairie, il était à 6,6. Et la vérité, c'est qu'il est même plus bas que ça, puisque désormais, on intègre dans ce taux de chômage, depuis le dernier trimestre 2025, les bénéficiaires du RSA et les jeunes qui sont dans un dispositif d'insertion, ce qui représente environ 1%. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on serait en gros, à maxi 5%, ce qui est ce qu'on appelle le plein emploi. Donc l'emploi en Vendômois va très bien. Les entreprises ont créé sur le Vendômois plus de 800 emplois sur le mandat. C'est énorme. Donc oui, il y a des usines et c'est terrible humainement qui ferment comme Brandt. Il y aura des postes qui leur sont proposés. Il y a un travail d'accompagnement. Après, ce qui est difficile pour un cas comme Brandt, c'est qu'il faut mesurer qu'il y a des gens qui travaillaient de temps depuis 20 ans, 30 ans. Et tout s'arrête brutalement, sévèrement. Et on a des gens qui ont été 20 ans à travailler ensemble, se voir tous les matins. C'est important, les liens au travail. Oui. Et qui, du jour au lendemain, qui on a dit, écoutez, on met en liquidation judiciaire. Et puis, deux mois plus tard, ils ont reçu, la veille du premier de l'an, leur lettre de licenciement. Et le drame, il est surtout humain à ce niveau-là. Et en plus, la perte d'une marque française. Mais surtout, c'est le drame humain. Mais il y a de l'emploi en Vendômois. On a un chiffre extrêmement bas, l'un des plus bas de France.
Je pose une question en lien et puis il sera l'heure de terminer. Comme on le disait, ça va très vite. Justement, est-ce qu'un maire a des pouvoirs pour limiter cette notion de l'emploi ? À quelle échelle il peut agir ? Et puis aussi, justement, la question avec Brandt, des gens qui travaillaient depuis 25 ans, 30 ans dans cette usine, qui vont certainement potentiellement se retrouver au chômage. S'ils ne sont pas recasés dans d'autres structures, ça pose la question de l'emploi des seniors. Pareil, est-ce qu'un maire peut agir pour l'emploi des seniors ? On sait qu'il est c'est le plus fort sur les catégories, sur les tranches d'âge. Ouais. C'est les seniors qui sont le moins employés. Donc est-ce qu'un maire peut agir aussi à ce niveau-là ?
Alors, sur l'emploi senior, le fait qu'on ait un taux de chômage extrêmement faible fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de recruter. Et dans différents domaines, je pense à gens de maintenance, comme ouais. Là, honnêtement, Brandt, même si c'est terriblement, ils n'ont pas demandé l'âge des gens, hein, eux, ce qu'ils veulent, okay. Voilà. Et puis, alors un maire, il n'a pas un levier direct. Nous, on a un rôle. Le premier rôle, c'est de rendre la ville attractive. Quand quelqu'un vient s'installer à Vendôme, parce qu'il trouve un emploi, faut que, si c'est vos parents, faut qu'ils aient aussi, qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'activités possibles pour leurs enfants. Par exemple, en ce moment, avec le Studio ZEF, ce qui est fait à travers le territoire Vendômois et le service jeunesse. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des services publics ? Est-ce qu'il y a du transport, comme on parlait tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a de la culture ? On a énormément développé, là, sous ce mandat, l'aspect culturel en augmentant le nombre de spectacles, les expositions avec le Grand Manège, etc. Est-ce qu'il y a de la culture ? Nous, on doit rendre la ville attractive. On doit aussi être très réactif. Quand on est interrogé par un investisseur, un chef d'entreprise, que ce soit un chef d'entreprise qui est déjà là, qui veut s'agrandir, quelle que soit la dimension de l'entreprise, ou que ce soit une multinationale qui arrive, on doit absolument être actif. On doit être à leur côté, faciliter. On a un rôle de catalyseur, on doit fluidifier les choses. Ça veut dire quoi ? Par exemple, on fait des rendez-vous, on met tout le monde autour de la table, y compris les pompiers. Car quand une entreprise s'installe, il y a la défense incendie. Et s'il dépose le permis de construire et qu'on n'a pas anticipé tout ça, eh bien on perd encore des mois et des mois parce que le permis est refusé, parce qu'on n'a pas vu la défense incendie, etc. Donc on a ce rôle-là. Là, il y a une entreprise, par exemple, Baumeur, qui a, ça y est, qui va se réinstaller, qui va s'agrandir. Eh bien, ça fait pratiquement un an qu'on a travaillé, tout préparé ensemble. Et les choses, maintenant, se font extrêmement vite parce que tout est calé avec les services de l'État, la DDT. On travaille beaucoup sur la biodiversité. Donc, tout ça, c'est important. On a ce rôle-là. On n'a pas un levier direct. C'est les entreprises qui créent l'emploi. Mmh. Mais nous, on doit accompagner. On doit être vigilant à leur côté. C'est vraiment ce rôle-là qu'on a.
Ah, il reste le temps pour une ou deux questions, les garçons qui se...
Eh bien, il nous reste deux questions.
Allez-y.
Donc, l'été dernier, on a pu connaître la fermeture de certains établissements scolaires à cause de la chaleur. Donc, comment comptez-vous adapter les écoles face aux risques de canicule?
Et là, on ne parle pas donc des collèges ou des lycées qui ne sont pas d'autre sorte,
voilà,
mais bien
mais
purement
primaire,
des écoles maternelles.
Il y a deux choses majeures, et ça, je le dis. Un, il faudra des salles rafraîchies dans tous les établissements scolaires. D'office, une salle où vous puissiez venir récupérer, travailler, déjeuner avec de la fraîcheur. Et puis, c'est le travail qu'on a lancé sur toutes les cours d'école de Vendôme. C'est aussi refaire les cours d'école pour combattre les îlots de chaleur, pour permettre aussi à la pluie, là c'est un autre sujet d'actualité, que l'eau puisse évacuer naturellement et non pas couler dans des bouches d'eau pluviale et qui termine au Loir quand il est saturé. On a aussi ce rôle-là, mais c'est rafraîchir l'ensemble des établissements avec des salles faites pour, dédiées, bien évidemment, et puis bien travailler sur nos cours d'école. Et puis, au-delà des cours d'école et des écoles, il faudra travailler à continuer à végétaliser une ville comme Vendôme.
Donc ça veut dire dégoudronner, ça veut dire...
Oui.
Et donc progressivement, chaque école, les unes après les autres.
On en a déjà fait deux l'été dernier. Voilà. Il y en a deux de programmés l'été prochain, et selon qui sera. On a fait une étude avec les architectes assez unique en France, où toutes les cours d'école ont été vues avec des résidences, où il y avait de tout. Il y avait des architectes, il y avait des ingénieurs en eau et assainissement, il y avait même des chorégraphes. Et on a travaillé sur toutes les cours d'école, donc elles ont toute une esquisse qui est prête à faire feu. On en fait deux par an parce que c'est un budget. Par exemple, les deux cours d'école qu'on a fait, c'est 600 000 euros. Il faut mesurer.
Mmh. Allez, la dernière question, les garçons.
Donc en ce moment, on voit que le Loir monte vite. Comment adapter Vendôme et le territoire face au creux du Loir?
Sur la même thématique,
alors
une dernière question environnement.
Voilà, on les a adaptés, comme je disais, évidemment, faire qu'il y ait de l'imperméabilisation. Tous les travaux qu'on fait aujourd'hui, par exemple les stationnements, il n'y a plus un seul stationnement goudronné. On a fait près de la piscine, ceux qui connaissent les Grands Prés, vous avez vu, c'est plein d'une structure qui absorbe l'eau avec des gravillons. C'est aussi adapter tous nos chantiers, continuer à dégoudronner les choses, bien évidemment. Ça, c'est absolument fondamental. C'est aussi travailler sur tout le Loir amont, ce qu'on appelle, et prévoir des zones où le Loir peut s'étaler pour pas qu'il s'étale dans les maisons et mette en danger les biens des gens et les gens eux-mêmes. C'est ça aussi qu'il faut travailler, bien évidemment. Et puis après, c'est aussi... là, c'est sur l'aspect plutôt... précaution et sécurité. On a fait des systèmes d'information dans les écoles. On va les continuer pour que tous les jeunes soient informés de ce qu'est une inondation, des gestes à faire, à ne pas faire. Et on le fait. Toutes les maisons qui sont en zone inondable aujourd'hui à Vendôme, gratuitement, reçoivent deux personnes qui font un diagnostic de leur intérieur et qui ont des préconisations. Et on aide les travaux jusqu'à 80% du montant pour adapter le logement, pour ne pas se mettre en danger. Mais ce qu'il faut, c'est continuer à travailler sur l'avant, c'est-à-dire faire en sorte que... on sait qu'on aura de plus en plus de changements climatiques et de variations de pluviométrie. Donc, il faut essayer de s'adapter au maximum. Il faut désimperméabiliser, c'est fondamental, et pas que les cours d'école.
Merci beaucoup. Est-ce que les questions vous allez? Est-ce qu'ils ont bien travaillé?
Non, ils ont très bien travaillé. C'est des questions très pertinentes. C'est des questions très, très pertinentes. Très bon boulot. Bravo, jeunes gens.
Merci les
beaucoup.
Garçons.
Merci.
Fait une pause musicale et on se retrouve avec notre autre candidat à la mandature de Vendôme qui arrive dans quelques minutes. À tout de suite sur Studio Zef. Merci, monsieur Le Briard.
Merci.
Merci.
Give me real, don't give me fake. Give me
De retour ici au Centre culturel des Rottes de Vendôme en direct donc pour cette émission, cette première des deux émissions spéciales que nous consacrons aux élections municipales ici à Vendôme. Donc après cette première séquence avec le maire sortant Laurent Briard, on reçoit avec Théo, Mathéo et Lucas présents autour de la table. Pascal Brindeau, bonjour.
Bonjour.
Donc même rappel, je serai en modération mais ce sont les trois garçons qui sont autour de vous qui vont vous poser des questions. On commence.
À quoi se sert un maire ?
À quoi sert un maire? Très bonne question. On a en France environ 34 000 communes de taille très différente. Et chaque commune élit un conseil municipal parmi lesquels un maire est élu. Et le maire, il a une double fonction. Il est celui qui gère une administration municipale, des agents, des fonctionnaires ou des contractuels qui interviennent dans le champ de la vie quotidienne des habitants de la commune. Les jardins, les espaces verts, les routes, les bâtiments publics, les écoles, un ensemble de compétences qui sont dévolues en fait aux communes et que doit gérer un maire avec son équipe municipale. Et puis, il a une autre fonction, le maire, c'est-à-dire qu'il est... sous la responsabilité de l'État, un officier du ministère public, par exemple, marie les gens pour le compte de l'État. Il a aussi des fonctions en matière de sécurité. Tout un ensemble de choses pour lesquelles il est soit sous l'autorité du préfet, soit sous l'autorité du procureur de la République parfois. Donc ça, c'est deux fonctions qui sont complémentaires et différentes à la fois.
Vous disiez qu'il y avait 34 000 communes, c'est ça ?
Un peu plus de 34 000.
Du coup, il y a plus de 34 000 maires ?
Bien sûr.
Ça fait
de la France un pays singulier en matière de représentation politique locale, effectivement. Il y a des pays qui sont plus grands que les nôtres, l'Allemagne par exemple, qui est notre voisin, qui dans les années 60 et 70 a fait le choix de regrouper, supprimer un certain nombre de communes et d'échelons. Ils ont aujourd'hui beaucoup moins d'élus locaux que nous, mais... j'allais dire, la culture française fait que ce maillage d'élus locaux est aussi une force parfois. Quand on a des épisodes climatiques qu'on connaît aujourd'hui avec les crues, ce sont les maires qui sont en première ligne pour aider leurs habitants.
Pourquoi vouliez-vous devenir maire de Vendôme ?
Alors on pourrait demander pourquoi voulez-vous redevenir maire de Vendôme, je me permets.
c'est exact. Eh bien, peut-être parce que j'ai le sentiment que le travail que j'avais entamé n'a pas été achevé. Et puis, même si j'ai changé de vie professionnelle entre-temps, il y a un certain nombre de Vendômois qui sont venus me solliciter pour redevenir le premier magistrat de la ville. Et j'ai aussi des projets qui me tiennent à cœur en matière d'attractivité économique, notamment en matière de restauration du quartier Rochambeau. Il reste un bâtiment à finir de restaurer. Et, on a un projet notamment de développement économique à l'intérieur qui est cohérent par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui dans le quartier Rochambeau. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je sollicite la confiance de mes concitoyens.
Est-ce que vous avez hésité avant de vous dire que vous y retourneriez dans une campagne, dans une bataille électorale ?
Oui, enfin hésiter. En tout cas, j'ai partagé ça avec ma famille parce que c'est un engagement quotidien, 7 jours sur 7 et quasi H24 parfois. Donc ça ne se prend pas seul comme décision, ça s'assume en famille.
On en discutait avec Monsieur Briard et puis peut-être que les conditions étaient déjà entamées à votre époque, mais on a l'impression que c'est devenu plus difficile la fonction de maire. C'était déjà le cas quand vous avez quitté la mandature en 2020 sur votre premier mandat entre 2014 et 2020.
Oui, l'exercice du mandat de maire est beaucoup plus difficile qu'auparavant pour plusieurs raisons. Moi, en 2014, j'ai connu la baisse drastique. Des concours de l'État qui contraignaient beaucoup les collectivités territoriales dans leur fonctionnement et de leur capacité de continuer d'investir, d'agir. Et puis, on le voit, la société, surtout post-Covid, est devenue plus complexe, plus violente.
Elle s'est polarisée. Ouais.
Elle se polarise. Le débat politique, l'actualité le démontre, est complètement hystérisé. Alors, ce n'est pas le cas dans 99% des villes françaises. Et à Vendôme, on est dans une situation très apaisée, on s'en félicite. Mais les exigences de nos concitoyens sont devenues plus importantes. Les réseaux sociaux ne font pas que du bien dans le sujet aussi. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui rendent le mandat plus difficile et qui expliquent que parfois, il y a des maires qui jettent l'éponge.
Vous nous disiez que vous aviez des projets comme une partie du quartier Rochambeau. Est-ce que vous en avez d'autres que...
Vous pouvez nous développer.
Oui, bien sûr. Vous avez sur plusieurs sites de la ville, pas très loin d'ici d'ailleurs, un certain nombre de zones où on a des friches qu'elles soient des friches industrielles ou parfois des friches d'anciennes habitations, d'anciens
garçons,
autres
locaux. Les garçons, vous savez, on avait dit qu'on interromprait.
Oui,
si,
pas de souci.
Est-ce que vous savez ce que c'est une friche? Voilà, c'est ça la question.
Non, pas trop.
Voilà, donc on va demander à Monsieur Brindeau d'expliquer ce que c'est une friche. Alors,
ce qu'on appelle une friche, c'est des bâtiments qui avaient un usage industriel, économique parfois, d'habitation et qui sont à l'abandon aujourd'hui. Qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas d'ailleurs forcément à la ville, à la collectivité. Le quartier dont je voulais vous parler, c'est le quartier de la gare aujourd'hui. Vous voyez le grand silo, qui est un ancien silo de céréales, qui est aujourd'hui en état d'abandon, même s'il y a eu un gros travail de fait pour l'embellir, notamment grâce à plein de jeunes de la ville de Vendôme.
Dans le cadre du projet État des lieux.
Dans le cadre du projet, du deuxième projet État des lieux. Il faut que ce quartier trouve demain à la fois une restructuration. On ne peut pas laisser, il y a des maisons abandonnées autour, il y a des choses qui tombent en ruine. Donc on ne peut pas laisser ce quartier en l'état, d'autant qu'il est le trait d'union entre le sud et le nord de la ville. Un des principaux problèmes, une des principales problématiques que connaît la ville en termes d'aménagement, de circulation, de connexion, y compris commerciale, etc., c'est qu'on est un peu coupé en deux avec la ligne de chemin de fer. Et c'est très vrai dans ce quartier-là. Donc en fait, il faut concevoir ce quartier comme étant un véritable trait d'union entre ici, le nord de la ville, et puis le centre-ville et ensuite le sud. Et avec mon équipe, on développe l'idée qu'il faut en faire un quartier exemplaire en matière de transition écologique, avec notamment y compris des sites dédiés avec des partenaires associatifs, le fait pour les citoyens jeunes et moins jeunes de pouvoir être formés aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, même si on le fait déjà, en matière d'économie de la ressource en eau. Ça va être un des principaux problèmes que l'on va connaître en France, mais partout dans le monde, dans les années à venir. C'est la gestion de la ressource en eau, la raréfaction de la ressource en eau. Comment est-ce que, par l'utilisation de matériaux qui sont biosourcés, on construit plus durablement ? On limite notre empreinte carbone. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que oui. On limite la consommation d'énergie, etc. Voilà, en faire un quartier qui soit exemplaire de ce point de vue-là, qui serve aussi d'interaction avec nos concitoyens, et on puisse y mettre de la mixité entre, pourquoi pas, un peu d'habitat, un peu de services publics, parce qu'on a besoin aussi de trouver ce lien entre les deux parties de la ville, et puis également pour pouvoir réhabiliter ce silo, y avoir des activités économiques, que la ville doit pouvoir louer un certain nombre d'espaces parce que ça permet de financer, par exemple, la réhabilitation du bâtiment dans le long terme, et puis aussi des espaces de culture, parce que ce qui s'est passé avec État des lieux 2 montre que c'est aussi un site privilégié pour cela.
C'est quoi la chose que vous préférez dans ce métier ?
Alors d'abord, ce n'est pas un métier, même si peut-être qu'il y en a qui considèrent que c'en est un. D'abord, on s'engage pour ses concitoyens. Alors on peut le faire dans les associations, on peut le faire dans plein de moments. Mais il y a quelque chose de motivant dans le fait de se dire que lorsqu'on prend une décision, on ne la prend pas pour soi-même, on ne la prend même pas, en tout cas pas de mon point de vue, en pensant être réélu la prochaine fois, mais qu'on la prend pour l'intérêt des gens qu'on connaît, des habitants du quartier, des habitants de la ville. Et puis ensuite, ce qui est passionnant dans la fonction de maire, c'est que, je parlais du quartier de la gare, je parlais du quartier Rochambeau, on a avec son équipe municipale et puis avec les fonctionnaires territoriaux qui nous accompagnent, la possibilité de transformer en fait la ville, de penser à l'avenir. Et quand le quartier ici a été réhabilité pour partie et doit l'être aujourd'hui puisqu'il y a des espaces qui se sont libérés, et bien c'est passionnant de pouvoir, en le partageant évidemment avec les habitants du quartier aussi, de pouvoir imaginer ce que sera l'architecture de la ville de demain.
D'accord. Si vous devenez maire de Vendôme, seriez-vous président de l'agglomération ?
Alors c'est pas automatique, puisque donc l'agglomération, c'est le regroupement de 65 communes au sein de ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale, qui est aujourd'hui une obligation pour chaque commune d'appartenir à ce type d'établissement, avec une répartition de compétences entre l'agglomération et les communes. Et donc, c'est l'objet d'un vote des représentants de chaque commune dans ce conseil. Donc, il y a une logique à ce que le maire de Vendôme, ville principale de l'agglomération, et parce que nous avons ce qu'on appelle une administration territoriale très mutualisée, qui est un héritage important de maires précédents de Vendôme, et je pense en particulier à Daniel Chanet, puisque c'est lui qui a initié à partir de 2006 cette mutualisation, parce qu'il avait la vision de se dire qu'on mettait en commun des moyens humains au service d'un territoire plus large. Voilà. Puis après, on a élargi le territoire. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce que je pense au service jeunesse notamment. Il est capable, vous en êtes les exemples, d'intéresser, de faire participer des jeunes qui ne sont pas forcément que de la ville de Vendôme, mais à des projets communs comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Donc il y a une logique, mais après, c'est la démocratie qui s'exprime et qui s'exprimera. Dans ce cas-là. Est-ce que la question est, si je suis élu maire de Vendôme, est-ce que je serai candidat à la présidence de l'agglomération? La réponse est oui.
Donc vous êtes plutôt favorable à ce double poste?
Oui, parce que notre territoire est organisé comme ça. La réponse est peut-être différente sur d'autres territoires. On prend l'exemple de Blois, où ça fonctionne sur un binôme, mais qui est un binôme blésois malgré tout.
Oui. Tout à fait, vous avez raison de le préciser.
Mais un maire d'agglomération, ça fait la même chose qu'un maire d'une commune, mais avec beaucoup plus de travail ou c'est...
Alors, en fait, l'agglomération a un certain nombre de compétences. Hein. Par exemple, elle a la compétence du développement économique. Toutes les zones d'activité économique qui se trouvent sur les communes de l'agglomération, en réalité, appartiennent à l'agglomération et non pas aux villes. Hein, si on prend à Vendôme, la zone qu'on dit être la zone industrielle sud, par exemple, des projets qui viendraient à se développer dessus, on prend le projet d'un futur site hôpital clinique, on est sur des terrains qui seront vendus par l'agglomération et non pas par la ville de Vendôme, parce qu'ils appartiennent en fait à cette structure. Ça a été mutualisé, ça a été transféré à une époque déjà ancienne, puisque c'est une compétence très ancienne des intercommunalités. Puis il y a un certain nombre d'autres dossiers, d'autres compétences qui sont aussi de cette compétence-là, qui doivent en fait être décidées en commun avec l'ensemble des communes qui regroupent l'agglomération. Donc le président de l'agglomération, il n'est pas seul à décider. Peut-être que dans certains moments, il est seul à décider, mais il est obligé ensuite d'avoir l'accord de ses autres maires. Donc c'est un fonctionnement qui ressemble un peu à celui d'un conseil municipal aussi, parce qu'un maire, alors, il a la possibilité de prendre un certain nombre de décisions seul, c'est ce qu'on appelle les arrêtés, mais les délibérations collectives, les grands projets, on va dire, ou alors les projets importants dans une ville, c'est le conseil municipal qui les vote.
On avait une question sur la sécurité qui est au cœur de votre programme.
Oui. Que voulez-vous dire par agir contre la petite délinquance? Qu'est-ce que c'est la petite délinquance? On a vu ça dans...
Selon vous.
Alors la petite délinquance, c'est ce qu'on appelle aussi parfois les incivilités. C'est plein de petits comportements individualistes, égoïstes, qui pourrissent la vie des habitants d'un quartier. Je te cite un exemple. Je suis propriétaire de chiens. Y a des propriétaires de chiens qui baladent leurs chiens. Les chiens font leurs besoins sur les espaces verts. Les espaces verts, ils sont entretenus par le personnel municipal. Si on ne ramasse pas le caca du chien, voilà, on pourrit la vie des habitants qui peuvent marcher dedans, etc. Ça paraît pas grand-chose. Il y a des mobilettes qui font peu de bruit, puis il y en a d'autres qui font beaucoup de bruit. Puis parfois, il y a des conducteurs de mobilettes qui s'amusent à faire beaucoup de bruit parce qu'ils pensent que c'est sympa. Ça embête la vie des personnes âgées qui vivent dans le quartier. C'est pas grand-chose, mais ça finit lorsqu'on accumule toutes ces petites contraventions, parce que c'est pas de la grande délinquance, mais ça fait partie d'un ensemble qui fait qu'une ville, elle est plus agréable à vivre s'il n'y a pas ces petits cailloux dans la chaussure que si on laisse faire. Donc l'idée de se dire qu'on s'attaque à la petite délinquance, c'est de veiller à ce que les incivilités soient le plus limitées possible.
Mais vous avez une idée.
C'est le rôle de la police municipale que de pouvoir à la fois faire de la prévention. C'est-à-dire on explique au promeneur avec son chien qui vient de laisser les besoins, bah, que ça va être mieux de l'enlever et que pour les prochaines fois, il faudra penser à l'enlever. Il y a tout un tas de moyens, on met des sacs à disposition, il y a pas de difficulté, c'est juste un comportement vertueux. Et puis bah, si la personne continue de pas comprendre, on peut aussi lui mettre une amende. C'est vrai pour le promeneur de chien, c'est vrai pour le conducteur de la mobylette, c'est vrai pour un tas de situations du quotidien.
Et alors ça veut dire qu'il faut augmenter les effectifs de police, notamment, de police municipale ?
Ça veut dire qu'il faut augmenter les effectifs de police. Dans les villes de notre taille, les brigades de police municipale, c'est autour de 10 à 15 policiers municipaux. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir à la fois ce travail, on va dire, de police du quotidien, de prévention, d'accompagnement dans les quartiers, de présence, tout simplement, pour dire, bah voilà, on passe, est-ce que tout se passe bien dans le quartier ? Et je parle des quartiers de la ville, hein, on ne parle pas de ce quartier des Rhodes seulement ici. Et puis, on le voit tous les jours, la police municipale est de plus en plus amenée à participer avec la police nationale à des actions, pour le coup, relevant de la police judiciaire. Donc là, on est sur des actes plus graves, des vols, trafic de stupéfiants, etc. Et il y a un texte de loi qui est en train d'être finalisé, enfin qui est en train d'être fini de voter, de passer au Parlement, qui va donner aux polices municipales plus de pouvoir en matière justement de police judiciaire. Toujours accompagné de la police nationale, mais avec des possibilités de verbalisation ou d'interpellation dès lors qu'il y a ce qu'on appelle un flagrant délit. Un flagrant délit, vous le savez peut-être, c'est on prend la personne sur le fait. On la voit en train de commettre l'acte. Voilà. Et donc, si on veut remplir ses missions dans de bonnes conditions et avoir une police municipale qui puisse aussi intervenir le week-end, par exemple, parce que la délinquance, elle s'arrête pas avec la semaine, il faut environ 10 à 12 policiers municipaux, hein, avec les remplacements, etc., les congés des uns et des autres, et toutes les missions, les abords des écoles, la police de voirie, évidemment, mais pas que. Voilà, il faut ces effectifs-là. J'ai pas été chercher le fait de dire on va doubler les effectifs de la police municipale, puisqu'il y a aujourd'hui 5, demain peut-être 7 policiers municipaux, mais voilà, il faut grosso modo une brigade d'environ 12 personnes.
Très bien. On continue avec des questions, oui, peut-être sur la jeunesse ou l'environnement, le temps file, on va voir si on peut tout faire, mais qui pose la question suivante, les garçons ?
Bon bah, quel projet vous avez pour la jeunesse ? Quelles idées vous avez ?
Quelles sont les grandes orientations concernant la jeunesse ?
Alors, la principale orientation, c'est de dire, on va construire ces actions pour la jeunesse avec la jeunesse. C'est par exemple relancer le conseil municipal des jeunes qu'on avait créé lorsque j'étais maire, mais qu'on va ouvrir aux collégiens et aux lycéens.
C'est ce qu'il y a, Naveille, c'est ce qu'il y a, le conseil des jeunes.
Exactement, exactement. Naveille, ils l'ont conçu même avec des enfants plus jeunes encore, je crois.
Oui, hein, oui.
Voilà. Moi, je voudrais qu'on intéresse à la vie citoyenne, on va dire, les ados et presque les post-ados. Parce que, justement, ils vont entrer dans la vie citoyenne dans quelques années.
Donc la tranche 11-18, quoi.
Exactement. Et c'est de se dire, il n'y a que les jeunes qui vivent à Vendôme, sur le territoire, et qui expriment un certain nombre de souhaits, de projets, qui sont en capacité de dire ce qui est le mieux pour eux. Moi, je prends l'exemple de ce qu'on avait fait à La Fosse, qui est un city-stade. On était parti de la volonté des jeunes d'avoir un équipement à cet endroit précis-là du quartier, parce que c'est là qu'ils se réunissaient, hein, j'allais dire historiquement, pour jouer au foot, mais ils étaient sur un terrain ultra vieux du bitume, donc ils se faisaient mal aux genoux à chaque fois qu'ils jouaient. Et c'est eux qui ont déterminé le projet, en fait. Et du coup, bah, ça donnait à ça une force et une adhésion, en fait, des jeunes du quartier beaucoup plus forte si on les met dans une salle et on leur explique qu'on va faire ça parce qu'on pense que c'est bien pour eux.
Ils se le sont mieux accaparés une fois, voilà, que le projet a été, voilà, mis en place.
Donc à la fois la structure, et puis après, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager ou qui sont prêts à le faire, soit sous forme associative, soit de manière autre, à la fois dans l'intergénérationnel, en fait. dans le partage d'activités avec, nos aînés, avec les seniors, qui sont parfois en situation d'isolement. Mmh. Et ça, on voudrait travailler là-dessus aussi. Et sans doute qu'on peut le faire avec les jeunes. Et puis, bien sûr, aussi en matière environnementale, en matière écologique. Parce que les jeunes générations, elles sont des bons vecteurs de bonnes pratiques pour les parents, notamment.
Eh ben, on va finir les deux questions sur l'environnement. Vous aviez des questions,
on a préparé des questions déjà, sur le sujet. Déjà, je voudrais... pose une question. C'est en 2014, vous étiez sur la même liste que Laurent Brouillard, à qui vous avez laissé la place de maire lorsque vous êtes devenu député. Pourquoi vous n'avez pas voulu, vous deux, vous remettre sur la même liste?
C'est la question piège de la séquence.
Non, ce n'est pas une question piège parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. Dans la vie politique, mais pas que, dans la vie aussi, il y a des valeurs qu'on appelle la fidélité, la loyauté, qui ne sont pas toujours respectés. Ça a été le cas. J'en ai fait l'expérience. Et donc, à partir du moment où il y a une rupture, on en tire des conséquences. Même si moi, je n'en fais pas une affaire personnelle. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire des propositions pour les Vendômois. C'est d'afficher une méthode et de regarder ce qui a été réussi entre 2014 et 2019, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et de faire la comparaison avec la situation d'aujourd'hui. C'est ça notre différence.
Allez, on termine donc avec les questions sur l'environnement. On en avait préparé deux.
Quelques-unes.
Ouais, ben, le temps file, donc on n'aura plus que ces deux-là.
Alors, est-ce qu'un maire peut agir sur le harcèlement dans les écoles? Comment pensez-vous agir?
Donc c'est une question sur le harcèlement et non pas sur l'environnement, mais très bonne question.
Qui est tout aussi
importante. Tout à fait, allez-y.
Alors, il peut le faire. Alors d'abord, on a un ensemble aujourd'hui de procédures que l'État a mis en œuvre, que l'Éducation nationale a mis en œuvre, qui, dans le cas où il y a des situations de harcèlement, devraient être signalées, qui permettent aux victimes d'être accompagnées. La réponse par rapport au maire, c'est oui, il a une possibilité, c'est que lorsqu'il y a des faits avérés, des signalements opérés, il y a ce qu'on appelle l'article 40 du Code pénal qui impose à une personne, lorsqu'elle a connaissance d'un fait délictueux, hein, donc par exemple de harcèlement, de saisir le procureur de la République pour qu'ensuite il y ait une enquête judiciaire qui puisse être mise en place. Donc c'est en cela, il peut intervenir en matière de coordination de l'éducation nationale, des familles, des parents, etc., en termes d'information, en termes de prévention, mais aussi très concrètement en matière pénale, en dénonçant des faits s'il en a connaissance. Donc après, il en a même l'obligation.
Donc après une remontée de terrain,
Exactement. Une
plainte déposée par des parents d'élèves auprès du chef d'établissement qui vous reviendrait aux oreilles,
Absolument.
Vous avez les pouvoirs de déposer...
On a même le devoir
vous
de le faire.
Vous avez le devoir. Mmh. Très bien.
Je ne sais plus en quelle année, mais dans les écoles, il y a eu des très fortes canicules. Comment adapter le territoire de Vendôme à
ces fortes chaleurs, et notamment dans les établissements scolaires et les écoles qui sont du ressort des
municipalités. Alors, dans notre projet, il y a tout simplement la climatisation d'un certain nombre de salles, à la fois dans les écoles, mais aussi crèches et établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, parce qu'on a le même problème avec les personnes âgées. Lorsqu'il y a des périodes de fortes canicules, on a des plans blancs qu'on appelle pour essayer de mettre les personnes dans des pièces un peu réfrigérées, pas réfrigérées. mais voilà, la climatisation, c'est la seule solution qui permette de gérer ces périodes de fortes canicules. Alors, on sait climatisation égale production de chaleur, etc., ou rejet de chaleur. Et donc, il faut que cette climatisation, elle soit limitée et décarbonée dans sa production. C'est-à-dire qu'on veut équiper les bâtiments publics qui peuvent l'accueillir de panneaux solaires. C'est possible sur les écoles, c'est possible dans le quartier parce qu'on n'est pas sous protection du périmètre, du patrimoine architectural. Mmh. C'est plus compliqué en centre-ville, mais il faudra qu'on se batte pour obtenir ces compensations entre guillemets écologiques à une consommation électrique et une production de chaleur momentanée lorsqu'on utilise les climatisations. Et puis bien sûr, avoir des îlots de rafraîchissement de la ville. Hein. On a en projet des micro-forêts aussi sur des quartiers de la ville et des zones où en fait on arrive à rafraîchir par le fait qu'il y ait de la végétalisation. C'est souvent le problème lorsqu'on refait une route ou une avenue, etc. Avant, on mettait des arbres. Maintenant, il faut mettre plus de choses parce que les périodes de forte chaleur vont s'intensifier malheureusement.
Donc la renaturalisation de certains espaces.
Exactement.
Très bien. Dernière question, il va être l'heure malheureusement qu'on arrête là déjà.
Comment adapter Vendôme aux crues du Loir ?
Ah, qu'on connaît un peu en ce moment.
Non, n'est-ce pas ?
Et on voit d'ailleurs que des crues deviennent un petit peu plus fréquentes et on sait... C'est scientifiquement établi que ces périodes-là vont s'intensifier. En fait, les phénomènes de crue vont s'accélérer et vont devenir parfois de plus en plus intenses. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont à faire en matière de prévention, c'est-à-dire lorsqu'on a connaissance d'un phénomène climatique qui va se dérouler dans les 48 heures, etc. C'est déjà en place, hein, c'est ce qu'on appelle les plans de sécurité communaux. Eh bien, la ville doit prévenir les habitants qui seraient impactés de se prémunir d'une future montée des eaux, parfois en quittant même le domicile si c'est très grave et très urgent. Et donc avec la nécessité de pouvoir les reloger, même temporairement, hein, une salle comme ici pourrait servir, en cas de vraiment très grosse crue du Loir, à pouvoir héberger des habitants le temps que l'eau redescende. C'est aussi une gestion de l'entretien en fait, des rivières. Alors ça, c'est un débat. Parce qu'il y a au ministère de l'Environnement des règles qui veulent qu'on touche de moins en moins au lit des rivières, etc. Mais il faudra qu'on puisse à un moment donné recréer des exutoires en fait, du Loir à l'extérieur de la ville. Parce que quand les eaux montent, elles montent en amont, elles montent sur la ville, elles montent en aval.
Donc un exutoire, c'est des zones qui permettent au Loir de déborder.
Voilà, et des zones qui précisément ne sont pas habitées. Donc il y a cela, et puis il y a globalement essayer par nos pratiques du quotidien, construction des bâtiments, utilisation de la ressource en eau, etc., et bien de limiter notre impact sur le réchauffement climatique, parce que c'est celui-là qui crée ces phénomènes de crue à venir, parce qu'on le voit sur toutes les tempêtes là, qui sont passées depuis un mois et demi, et bien que c'est la conséquence du réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Monsieur Brindo. On en aurait encore eu pas mal de questions, mais on savait qu'on n'avait qu'une demi-heure et qu'elle est désormais terminée. Vous êtes donc la tête de liste pour la liste Vendôme en grand, Vendôme pour tous. Bon courage pour cette campagne électorale qui s'annonce.
Merci à vous.
Comment avez-vous trouvé vos petits intervieweurs ?
Très professionnel.
Super. Eh bien, merci donc à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci les garçons, beau travail. On se retrouve demain à la même heure, 15h. Nous recevrons donc Mathilde Beauvallet et Simon Bluet, les deux derniers candidats présents sur la liste pour la course à la municipale de Vendôme. Merci à tous et à toutes. Les programmes continuent sur Studio ZEF. Bonne fin de journée.